18h dans le studio Kalangou, Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue dans ce journal au micro Nafissa Adamou Sirfo. Au sommaire de cette édition, fin hier 17 mai de la visite de 48 heures du ministre d'État, ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum dans le Kawar, région d'Agadez, la question de la sécurité, de l'immigration et de la fermeture du site aurifère du Djado était au cœur des échanges avec les autorités et la population de la zone. Dans la région de Diffa a également pris fin hier 17 mai le symposium international sur la déradicalisation des jeunes et la réinsertion des repentis de Boko Haram. Des recommandations y ont découlé. Et puis les étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Maradi ont barricadé très tôt ce matin la voie menant à l'université. Ils dénoncent l'arrêt depuis plus de mois de toutes les activités académiques par des enseignants-chercheurs. Enfin, la situation des villages déficitaires et les besoins en semences et engrais dans la région de Tillabéri, c'est de cela dont il s'agira dans la partie magazine de ce soir. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, est depuis avant-hier dans la région d'Agadez. Le ministre s'est rendu dans le Kawar, département de Bilma, où il a tenu une grande réunion avec les autorités et la population de la zone. Il a été question de la sécurité, de la fermeture du site aurifère de Djado et de la question brûlante de l'immigration. Écoutons le ministre Mohamed Bazoum au micro de notre correspondant Moussa Mamane.
La région du Kawar est affectée par trois problèmes. Le premier problème, c'est celui de l'insécurité qui s'est développée en particulier depuis l'apparition de l'or sur le sud du Djado. De façon connexe à cette économie se développait une économie criminelle faite de banditisme assumée par des groupes armés et qui ont écumé la zone dont il reste encore des résidus. Et le site a été fermé. Ça a un contre-coût social très élevé sur lequel il fallait que nous nous renseignions de plus près. Et la région du Kawar, enfin, a été affectée par les mesures que le gouvernement a prises pour interdire le trafic de migrants. Il s'est développé dans les villes comme Durkou, Siguidine et ailleurs. Là également, il y a un contre-coup. Sur toutes ces questions, nous avons eu des échanges, nous avons fait des promesses et nous allons veiller à ce que ces promesses soient tenues.
Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, que vous venez d'écouter. Autre aspect de cette édition, comme François Hollande, en mois de janvier dernier, Emmanuel Macron, le tout nouveau président de la République française, se rendra demain à Gao, où sont cantonnés les militaires français intervenant dans le cadre de l'opération Barkhane. La visite de demain est la première sortie officielle du président Macron sur le sol africain. Des précisions avec Tarnan Foudey Ahmed.
Le nouveau chef des armées de la France avait annoncé dès son élection qu'il effectuerait une visite rapide auprès des troupes françaises engagées sur une opération extérieure. Le dimanche passé, juste après la passation, Macron s'est entretenu avec des soldats français blessés au Mali. Aujourd'hui, plus de 1000 soldats français sont présents au Mali, précisément à Gao et à Tessilit, à la frontière algéro-malienne où ils combattent les djihadistes. Depuis 2013, 17 militaires français ont été tués au Mali et les derniers morts parmi ces soldats est Julien Barbé, 27 ans, tué le 5 avril dernier au Mali dans un accrochage avec les djihadistes. Emmanuel Macron s'est prononcé sur le devenir de la présence militaire française au Mali et dans le Sahel et dans son premier discours en tant que président de la République, il s'est engagé à lutter contre le terrorisme, même hors de la France. Les troupes françaises sont présentes dans 5 pays du Sahel en plus de la France. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad.
Récit signé par Tarnan Foudey Ahmed. Le symposium international sur la déradicalisation des jeunes et la réinsertion des repentis de Boko Haram, organisé par l'Université de Diffa, a pris fin hier mercredi 17 mai 2017. 4 thèmes ont été développés par des conférenciers venus de tous les coins de la planète. Il ressort de ces 3 jours d'échange plusieurs recommandations. La teneur avec Dr. Lawali Sitor, il est le rapporteur général.
favoriser la création et la formation des comités villageois de vigilance dans chaque village et les appuyer en moyens adéquats pour empêcher le processus d'enrôlement des jeunes dans le mouvement de Boko Haram. Multiplier les rencontres entre les chefs traditionnels d'une part et d'autre part autour des frontières en vue de permettre des échanges d'informations et d'expériences avec les chefs voisins. Regrouper régulièrement les jeunes et les femmes pour des séances de sensibilisation sur la vigilance permanente qu'ils doivent observer pour assurer leur sécurité et de leurs biens. Renforcer la coopération et la collaboration des chefs traditionnels et les populations avec les forces de défense et de sécurité stationnées ou de passage dans leur zone. Renforcer et promouvoir le dialogue intra- et intercommunautaire dans le processus de règlement de conflits d'une manière générale et dans le processus de réinsertion des repentis de Boko Haram en particulier.
Des propos recueillis par notre correspondant à Difa, Adam Baboukarna. En bref, le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, la coalition des partis membres de l'opposition, Amadou Djibo Dimax, a été auditionné ce jour jeudi par le procureur de la République. Les avocats du président Amadou Djibo que nous avons sollicités n'ont pas souhaité réagir. Ils disent ignorer encore les chefs d'accusation. La situation politique au Niger, toujours depuis quelque temps, l'opposition politique et la mouvance au pouvoir échangent des propos peu aimables l'un vis-à-vis de l'autre. Dans le journal d'avant-hier, vous avez pu entendre les déclarations des responsables du parti Modem Falumana ou de l'Alliance des partis de l'opposition. La parole ce soir à la mouvance au pouvoir avec le secrétaire à la communication du PNDSTARIA, Irosani, qui condamne sans détour l'opposition.
Nous avons suivi un certain nombre de choses, effectivement, d'actes qui sont posés par l'opposition. Il y a eu d'abord ce discours proféré par Ali Djibo Dimax. Ensuite, nous avons entendu la déclaration de l'opposition qui soutenait Max et qui cautionnait le discours qu'il a prononcé. Nous condamnons tous ces actes et toutes ces déclarations. Et ces déclarations-là prouvent, s'il était encore besoin, que cette opposition-là n'est pas une opposition démocratique et ne respecte aucune loi de la République. C'est pour cela que aujourd'hui cette opposition s'est discréditée.
C'était là Irosani, secrétaire à la communication du PNDSTARIA, au micro de Mokhtar Hamadou. Situation de la méningite au Niger cette année, selon l'organisation humanitaire OCHA, les conséquences de cette maladie récurrente sont plus graves qu'en 2016. Le nombre de cas suspects a quasiment doublé et en compte 179 décès, soit 62 décès de plus que l'année dernière. On fait le point avec Moussa Hassan.
Depuis l'annonce officielle de l'épidémie de méningite dans trois centres de santé intégrés du district de santé Niamey 2 le 29 mars passé, la situation a connu une certaine évolution dans la capitale et plusieurs autres localités. Le dernier rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA au Niger fait état de 3037 cas suspects de méningite, dont 179 décès enregistrés sur l'ensemble du pays à la date du 7 mai. En 2016, à la même période, l'on dénombrait 1784 cas, dont 117 décès. Selon le rapport, seul le district sanitaire de Madarofa était en épidémie et le district de Niamey 1 en alerte. Des campagnes de vaccination ont été organisées dans les zones qui ont connu des épidémies. Les autorités sanitaires, en collaboration avec Médecins Sans Frontières et les organisations partenaires, assurent la prise en charge des cas et les activités de prévention.
De l'éducation dans cette édition, le gouvernement et la synergie cause Niger-Sinaseb sont à nouveau à la table des négociations ce soir à Niamey. En prélude à cette rencontre, ce regroupement des syndicats d'enseignants a organisé une assemblée générale ce matin pour permettre à la base d'apprécier les nouvelles propositions soumises par la partie gouvernementale lors de la dernière rencontre le 13 mai dernier. Des précisions avec Seyni Harouna, membre de la synergie cause Niger à Sinaseb.
Le gouvernement a soumis, n'est-ce pas, un nouveau document qui souvent est même contraire à ce que nous avons arrêté le 13 décembre 2016, dont beaucoup de points sont en train de souffrir. La question, n'est-ce pas, du recrutement à la fonction publique qui est assujettie, n'est-ce pas, à la modification de la loi, jusque-là tarde à venir. La mise en solde, où aujourd'hui le gouvernement est dans une logique de vouloir mettre en solde une partie des camarades, tandis que d'autres vont attendre jusqu'à quand. Une mise en solde dont on ne connaît pas quels sont les critères de sélection, parce qu'on veut mettre mettre en solde 200 et quelques parmi plus de 1400. Cette situation nous rend un peu perplexes. En tant que responsable, en tant que signateur du protocole du 13, nous nous rendons aisément compte que le gouvernement est en train de fuir ses responsabilités et aujourd'hui, le délai étant dépassé. Malheureusement, nous sommes face à une situation où il y a nécessité d'impliquer la base et nous avons fait le point. Vraiment, par rapport à tout, je pense bien que la base a compris les dangers et aujourd'hui, nous sommes en train de faire les propositions avec lesquelles nous serons le soir.
Propos recueillis par Asumana Shina. Éducation toujours, les étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Maradi sont sortis très tôt ce matin pour barricader la voie menant à l'université. Ils entendent ainsi manifester leur mécontentement face à l'arrêt depuis plus d'un mois de toutes les activités académiques à l'Institut par les enseignants technologues. Pour Mazou Ibrahim Seydou, délégué principal des étudiants de l'UIT de Maradi, le rectorat se doit de rapidement trouver une solution aux revendications de ces enseignants.
C'est un problème lié à la mauvaise gestion par les recteurs. Si on part vers les enseignants, ils disent qu'ils veulent simplement être mis de leurs droits. Et si on part vers les administrateurs, ils disent que c'est les enseignants qui ne veulent pas. Sincèrement, on n'a pas compris qui est faux dedans. C'est pourquoi nous sommes décidés, après avoir concerté tous les éléments de la base, de sortir barricadés, fermer la porte principale de l'université pour empêcher tout accès à tout corps administratif, afin d'aller directement chercher à résoudre les problèmes. Les enseignants ils réclament comme droit les frais de cours complémentaires de l'année écoulée, c'est-à-dire année 2015-2016. Ensuite, ils réclament la complémentarité des frais de soutenance, dont les montants est 1 500 000. Ensuite, ils réclament la tenue des conseils de l'université afin de gérer quelques soucis internes. Maintenant, lui, le recteur, il n'a pas géré ça. Il a lancé un appel à candidature pour recruter les enseignants vacataires
et remplacer les enseignants
technologues.
Et puis de son côté, le directeur général de l'Institut universitaire de technologie parle d'incompréhension entre les enseignants technologues et l'administration. Selon Ali Chebou, si les revendications des enseignants n'ont jusque-là pas été satisfaites, c'est parce que l'IUT fait face à des problèmes financiers. Place à présent à la partie magazine de cette édition. À l'issue de la campagne agricole de 2016, plus de 7000 villages de la région de Tillabéri ont été déclarés déficitaires. Face à cette situation et pour assurer une bonne campagne agricole 2017-2018, plusieurs mesures d'accompagnement ont été prises par la Direction régionale de l'agriculture de Tillabéri. Zakaria Ouseidou brosse la situation déficitaire avant de mettre l'accent sur le besoin en semences et en engrais pour la campagne agricole de cette année. Il est au micro de Abdoulaye Mamoudou.
Comme vous le savez, la campagne agricole 2016, c'est vrai qu'elle était meilleure par rapport à 2015. Mais c'est que ce, il faut reconnaître qu'il y a eu un certain nombre de villages qui sont déficitaires, notamment au titre de la région 773 villages qui concernent une population de 1,118,843 personnes. Néanmoins, par rapport à la situation, un certain nombre de mesures sont déjà prises. Nous avons déjà la distribution gratuite et il est aussi prévu la vente de céréales à prix modéré qui est présentement en cours. Donc généralement, toutes ces mesures, c'est des moyens d'accompagnement pour rentrer dans la production d'hivernage 2017 en mettant la population dans des conditions de travail. Ainsi, par rapport à la campagne proprement dite, on a élaboré un programme avec tous les besoins pour accompagner cette population déficitaire qu'on a envoyé au niveau de la Direction générale de l'agriculture. Le programme contient d'abord la situation de dispositif d'encadrement. Parce que qui dit accompagnement, dit le dispositif. Donc, pour la région de Tillabéri, nous avons en gros 2000 villages et une capacité de couverture de 62%. Donc, il faut le rappeler, nous avons un certain nombre de districts agricoles qui sont vacants. Notamment pour la région de Tillabéri, nous avons jusqu'à 18. Et la moyenne d'encadrement, elle est de 17 villages par agent. Dans le cadre aussi des besoins, on a fait une estimation pour l'ensemble de ces 773 villages déficitaires à 1000 sorgho niébé. C'est ainsi pour l'ensemble de ces populations, comme je l'ai dit ici haut, pour une population de 1,118,000, nous avons 159,835 ménages que nous considérons des ménages vulnérables. Le besoin à même pour accompagner ces villages dans la prochaine production, nous avons fait une estimation de 1,598 tonnes de semences de mil pour 799 tonnes du sorgho. Et pour le niébé, nous avons 1,598 tonnes, ce qui fait en moyenne pour chaque ménage que nous considérons de cette personne devrait bénéficier d'un kit de 10 kg de mil, 5 kg de sorgho et 10 kg de niébé. Maintenant, qui dit aussi semence, il faut l'accompagner des engrais. Nous avons urée, NPK, IDAP, nous avons un besoin global de 2,550 tonnes pour l'ensemble de la région.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.